Écoute.
Bonjour, mon invité est Jean-Pierre Filiu qui vient de publier ce livre « Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné l'histoire d'un conflit du 19e au 20e siècle », c'est aux éditions du Seuil. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors le 7 octobre a pris beaucoup de monde de stupeur, y compris d'ailleurs les autorités israéliennes, mais ça fait déjà assez longtemps que toi tu lançais des alertes sur le fait que non, il n'y avait pas de calme, il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de situation contrôlée.
Oui, ça faisait une dizaine d'années que j'explique que c'était une illusion tragique que de gager la sécurité d'Israël sur l'insécurité permanente de la population de Gaza. Des 16 années de blocus de Gaza, 16 années, de 2007 à 2023, avaient littéralement donné les clés de l'enclave palestinienne au Hamas, et par un processus inexorable, donné au sein du Hamas le pouvoir aux plus extrémistes.
Et donc, c'était une illusion qui avait été aussi entretenue par la signature des accords d'Abraham.
Oui, ce rêve que la question palestinienne était oubliée, que la normalisation israélo-arabe allait progresser, alors que, depuis maintenant plus d'un siècle, c'est le conflit israélo-palestinien qui est au cœur. On a oublié la centralité de ce conflit du fait de l'intensité des guerres israélo-arabes, mais ça a toujours été cette question qui était centrale, et effectivement, les accords d'Abraham induisaient leur propre dynamique d'évitement, voire d'aveuglement.
Et alors, tu notes trois grandes faiblesses palestiniennes. La première, c'est justement l'illusion arabe.
Oui, alors en effet, cette faiblesse, elle remonte à loin. En 1913, le congrès fondateur du nationalisme arabe se tient à Paris, sur le boulevard Saint-Germain. Et déjà à ce moment-là, les délégués qui étaient venus de Palestine sont soumis à la pression de leurs frères arabes qui ne veulent pas qu'ils évoquent la question du sionisme. Donc on a un conflit de priorité entre les nationalistes proprement palestiniens et les panarabes, et ensuite entre le mouvement palestinien et les différents régimes arabes, jusqu'à déboucher sur de véritables guerres en Jordanie en 1970, c'est le fameux Septembre Noir, ou bien au Liban en 1976 et en 1983.
Alors on a beaucoup dit pendant les révolutions arabes que c'est une thèse souvent mise en avant par les amis d'Israël, c'est qu'en fait les Arabes ne se préoccupent pas de la Palestine, que les révolutions arabes se sont faites sans qu'on parle de la Palestine et que les accords d'Abraham montraient bien que les dirigeants arabes se contrefoutaient de la cause palestinienne. Sauf qu'il y a quand même autre chose.
Oui, il y a les peuples, les populations. Et en 2011, quand j'avais publié mes 10 leçons sur le soulèvement démocratique dans le monde arabe, l'une d'entre elles, c'était « La Palestine au cœur demeure ». Je constate que ce slogan, eh bien, il recouvre les murs d'une partie des villes arabes depuis le 7 octobre 2023, parce qu'effectivement, au cœur, elle demeure.
Et en même temps, on voit bien que les gouvernements n'ont pas changé, ceux qui ont signé la paix avec Israël n'ont pas rompu leurs relations avec Israël, et qu'on ne sent pas, c'est pas de ces gouvernements, quelque part la nature autoritaire de la plupart des régimes empêche des mobilisations en faveur de la Palestine.
Tous ces régimes ont plus peur de leur population que de quelques menaces extérieures, évidemment peur qu'une mobilisation sincère, réelle, profonde de leurs compatriotes en faveur de la Palestine ne débouche sur une contestation de leur propre régime.
Et donc, comment peuvent s'articuler les relations entre les pays arabes et Israël après le 7 octobre et surtout après les frappes israéliennes sur Gaza? Est-ce qu'il n'y a pas un point de non-retour qui aurait été atteint?
Oh, les régimes arabes peuvent supporter beaucoup, accepter beaucoup, tolérer beaucoup tant que leur stabilité n'est pas menacée. Non, la seule question, c'est l'Arabie saoudite, et l'Arabie saoudite est sortie d'une certaine ambiguïté diplomatique en affirmant clairement qu'il n'y aura aucune normalisation avec Israël tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien dans le cadre d'un règlement définitif de cette question.
Tu crois au scénario que l'on évoque régulièrement, une autorité palestinienne régénérée, on ne sait pas comment et par qui, et puis les Saoudiens qui paieraient, avec quelques pays du Golfe, la reconstruction de Gaza?
Il faudra, vu qu'on est maintenant dans la prospective, de toute façon partir de Gaza, de sa réalité humaine et politique, Or, aujourd'hui, hein, moi-même, qui connais quand même assez bien...
Qui est souvent allé à Gaza, tu connais bien.
L'histoire de Gaza, les recherches, mes séjours, je dois avouer que ce qui s'y passe est tellement sans précédent que c'est vraiment à partir de ces femmes et de ces hommes, de la tragédie innommable qu'ils sont en train de vivre, qu'il faudra reconstruire quelque chose, hein, entre les habitants de Gaza et les autres Palestiniens, et à partir de là, avec des États arabes, dont l'Arabie saoudite, mais sur la base de leurs priorités, de leurs demandes, de leurs revendications, dont la principale est une exigence de dignité.
Mais est-ce qu'il est possible de reconstruire quelque chose par rapport à l'ampleur des destructions, par rapport à qui ne prennent pas fin, qui vont continuer ?
Là encore, désolé de m'auto-citer, mais en 2012, en conclusion de mon histoire de Gaza, j'affirmais qu'il était impossible d'envisager un avenir pacifique, stable, non seulement pour Gaza, mais pour la région, si le blocus était maintenu. Donc l'idée qu'on pourrait reconstruire Gaza en maintenant l'étau qui pèse sur ce territoire et sa population jusqu'à aujourd'hui est totalement illusoire. Hein. Gaza doit être désenclavé, Gaza doit être démilitarisé, et Gaza doit être développé, c'est-à-dire qu'on doit laisser à ces femmes et à ces hommes une autre alternative que l'assistance humanitaire.
Certains avaient dit que le retrait unilatéral d'Israël de Gaza était le premier pas vers la paix. On était quelques-uns à l'époque de dire c'est plutôt une façon de mettre la poussière sous le tapis et de mieux asseoir le contrôle sur la Cisjordanie. Yossi Bellin, un membre du Meretz, de la gauche israélienne, avait dit si on ne négocie pas avec les Palestiniens le retrait de Gaza, ce sera une catastrophe. Et en fait, le blocus est survenu qui a empêché, on parlait de Singapour sur la Méditerranée pour Gaza, le blocus est venu empêcher tout développement.
En 2005, James Wolfensohn, donc ancien président de la Banque mondiale et envoyé spécial du Quartet pour le Moyen-Orient, donc les États-Unis, les Nations Unies, l'Union européenne et la Russie, proposait un plan de développement de Gaza de 3 milliards de dollars au G7. Hein, donc cette occasion non seulement n'a pas été saisie, mais Sharon a pratiqué avec les colons qu'il évacuait la politique de la terre brûlée, qui a conduit au blocus. À l'époque, les Israéliens pensaient avoir trouvé la formule optimale pour gérer plus de 2 millions de Palestiniennes et de Palestiniens. Ça a duré 20 ans, jusqu'à l'effondrement du 7 octobre 2023. Il n'y a aucune solution militaire, ni pour Gaza, ni pour la Palestine de manière générale. Il ne peut y avoir qu'un règlement politique sur la base des deux États.
Parce qu'il y a l'objectif d'éradiquer le Hamas. Et donc, on sait, c'est aussi une première, des bombardements de population civile, on l'a souvent vu, cela dans l'histoire, mais des bombardements de civils soumis à un blocus, c'est quand même plus nouveau.
Oui, mais là encore, hein, ça s'inscrit dans une continuité. Hein. Comme historien, je relève que c'est la 15e guerre d'Israël contre Gaza depuis 1948, et toutes ces guerres ont été, entre guillemets, gagnées militairement par Israël, mais perdues politiquement, sauf une, la première intifada, parce que en 1993, donc à l'issue de ce soulèvement non armé qui était parti de Gaza et qui était animé depuis Gaza, Yitzhak Rabin a choisi le processus de paix et donc a réussi à transformer sa victoire militaire en victoire politique.
Seul exemple. Alors, deuxième faiblesse des Palestiniens, c'est la dynamique factionnelle.
Alors là, j'avoue que bon, ça fait quand même une quarantaine d'années que je parcours ce monde palestinien et le territoire d'Israël, mais je ne mesurais pas la profondeur de l'enracinement de ce factionnalisme. Hein. Alors on peut trouver des raisons historiques, anthropologiques. La réalité, c'est que ça a été un handicap majeur, avant tout dans la période stratégique de l'entre-deux-guerres, où la polarisation du nationalisme palestinien entre les deux grandes familles de Jérusalem, les Husseini et la Nachashibi, a complètement plombé la mobilisation nationaliste, alors que le mouvement sioniste était totalement mobilisé par le projet d'État juif.
Et puis ça s'est poursuivi par la suite. Même peut-être Yasser Arafat a pu établir une unité des Palestiniens, même si le Hamas l'a contesté.
Alors, Yasser Arafat a dominé la scène palestinienne, il a été le chef de l'Organisation de Libération de la Palestine pendant 35 ans, hein, de 1969 à sa mort en 2004, et il a toujours voulu rassembler, même s'il jouait du factionnalisme pour diviser ses oppositions, mais il faut savoir qu'il y avait une tentation très forte de jouer le modèle algérien, donc d'avoir, comme le FLN, une unification brutale, sanglante, meurtrière, des mouvements de résistance autour d'une seule formation. Il l'a toujours refusé, en disant que le peuple palestinien ne survivrait pas à une guerre civile, et c'est pourquoi, malgré le défi du Hamas qui a été de plus en plus grave durant les dernières années de sa direction, il a refusé la confrontation armée avec les islamistes, qui a éclaté peu de temps après sa mort.
Troisième faiblesse, c'est le deux poids deux mesures, nié par certains, mais enfin qu'il est quand même difficile de contester.
Alors là aussi, dans l'histoire, hein, je fais des citations qui sont à la fois accablantes et très révélatrices, hein, parce que ce deux poids deux mesures, il repose sur la bonne conscience de ceux qui ont une approche pourtant totalement biaisée. Bon, faut quand même rappeler que le sort de la Palestine en 1917, hein, c'est la déclaration Balfour, qui est la première grande victoire historique du sionisme. Donc le sort de la Palestine a été décidé à Londres sans qu'aucun décideur britannique n'éprouve le besoin de rencontrer un arabe de Palestine. Et donc c'est ce déni, cette invisibilisation qui continue génération à génération à entretenir ce biais et à faire que on a donc ce deux poids deux mesures, et je cite hein, François Mitterrand, c'était au lendemain de la guerre de libération du Koweït, il avait cru en 1991 que la libération du Koweït ouvrirait à la solution à deux États, et publiquement il s'inquiète, il dit deux poids deux mesures, ce serait assassiner le droit international naissant, et donc ce droit international fondé sur les résolutions de l'ONU que d'aucuns espéraient après la guerre froide. On voit bien que c'est aussi sur la question palestinienne qu'il a été battu en brèche.
Et c'est d'autant plus évident avec la conjonction entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la guerre à Gaza, où les arguments occidentaux pour condamner l'acquisition de territoire par la force par la Russie, pour condamner les bombardements de civils en Ukraine, ne sont pas aussi opératoires pour ce qui se passe pour Gaza ou pour la Palestine.
Oui, je rappelle même qu'Ursula von der Leyen, quand elle va quelques jours après le 7 octobre en Israël, assurer Benjamin Netanyahou du soutien de l'Europe alors qu'elle n'a pas mandat pour cela, loin de là, eh bien à ce moment-là, on n'est qu'au premier jour du conflit, il y a déjà plus d'enfants tués dans les bombardements israéliens à Gaza que tués pendant toute la guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine.
Est-ce que tu penses que les événements de Gaza vont élargir le fossé entre les Occidentaux et ce qu'on appelle le Sud global, dont la réalité est niée par certains, généralement supporters d'Israël, et que ça va laisser des traces? Est-ce que dans les mémoires collectives, il y a des événements qui laissent des traces très durables? Et est-ce que les Occidentaux ne vont pas moralement, est-ce que la crédibilité morale des Occidentaux n'est pas en cause du fait de leur inaction par rapport au bombardement israélien?
Ah ben c'est très clair, hein, et on voit que ce deux poids deux mesures, il est souligné, mais s'agissant du sud global, enfin de ce qu'on appelle ainsi, ça n'est pas nouveau. En 1974, Yasser Arafat est invité à l'Assemblée générale de l'ONU, parce qu'il y a une majorité écrasante d'États nouvellement indépendants, de puissances mobilisées contre l'apartheid qui s'identifient à sa cause, alors que pour les Occidentaux, c'est encore fondamentalement un terroriste.
Alors, les trois forces israéliennes qui sont en fait autant de faiblesses, comme tu le montres très bien, tout d'abord, c'est les origines chrétiennes du sionisme.
Oui, alors, ces trois forces israéliennes, en fait, finissent par aveugler le mouvement sioniste, puis Israël, en le dotant d'un rapport de force écrasant qui fait que il croit pouvoir se dispenser d'un règlement de paix définitif. Hein, et on voit que c'est cet aveuglement qui a aussi conduit à l'effondrement du 7 octobre 2023. Alors le sionisme chrétien, hein, ça c'est une réalité qui est assez méconnue en France. On a voilà, on regarde généralement les mouvements messianiques, charismatiques, avec un peu de, voilà, de mépris, on les prend pas au sérieux. Or, c'est très très sérieux, c'est très très structurant. Et effectivement, il y a une antériorité historique par rapport au sionisme juif, et j'ai trouvé, je reproduis dans le livre, une carte du révérend George Bush, hein, ça s'invente pas, hein, cousin d'un arrière-arrière-arrière-grand-père de deux présidents homonymes des États-Unis, et qui, professeur d'hébreu à New York en 1844, fait une carte de la Palestine sans arabe, une Palestine où il n'y aurait que les tribus d'Israël, qu'il répartit d'ailleurs comme on répartissait les territoires dans l'Ouest américain, avec des lignes droites et parallèles. Et donc ça vient de très loin, et ça veut dire qu'il y a eu une imprégnation sioniste chrétienne, c'est l'évangélisme anglo-saxon, qui a fait que, en 1917 pour la déclaration Balfour, en 1948 lors de la proclamation de l'État d'Israël, d'abord à Londres, puis à Washington, des dirigeants avaient adopté une lecture biblique de la région et étaient du coup complètement préparés à endosser le projet sioniste et à le soutenir à bout de bras.
Alors, on voit d'ailleurs que il y a l'AIPA qui est très actif pour le soutien d'Israël, mais qui est moins en moins soutenu par les Juifs américains. Chuck Summers, la semaine dernière, donc le Juif le plus important dans l'appareil, selon ses propres propos, demande à Netanyahou de démissionner et de passer les élections, propose soutien à la solution des États. Maintenant, le soutien à Israël, ce n'est plus la communauté juive américaine, ce sont ces chrétiens sionistes.
Ce sont les sionistes chrétiens qui constitue le lobby pro-Netanyahou, pro-occupation, pro-colonisation, et qui s'oppose parfois frontalement à la communauté juive sur la question du processus de paix. Hein. C'était le cas avec Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin se plaignait en 1995, peu avant d'être assassiné, de ces groupes de pression qui au Congrès s'agitent contre le gouvernement israélien démocratiquement élu. On a oublié que la résolution adopté par les deux chambres du Congrès américain sur le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, elle est adoptée à une majorité écrasante par justement ce lobby qu'on dit pro-israélien mais qui est pro-occupation, pro-colonisation, pour lier les mains de Rabin qui est assassiné peu après. Et cette résolution avait entre autres été votée par un sénateur du Delaware appelé Joe Biden.
Alors, comment expliquer, enfin, on connaît assez mal ce mouvement en France, quelles sont les motivations de ces sionistes chrétiens ?
Ce sont fondamentalement des motivations dogmatiques, théologiques. Pour ces sionistes chrétiens, leur salut individuel et collectif dépend de l'accomplissement des prophéties par le peuple juif sur sa Terre Sainte, et donc, en découle un refus dogmatique, théologique, de toute concession territoriale, perçue comme une menace contre le salut des croyants en question. Donc, on voit comment tout ça s'éloigne complètement des préoccupations objectives, concrètes d'Israël, l'intérêt de la communauté juive qui est majoritairement démocrate, à 80% lors de toutes les élections, et comment cela va permettre à Donald Trump, de 2017 à 2021, de porter les coups les plus sévères de l'histoire à la légitimité même de la cause palestinienne par toute une série de faits accomplis, le premier d'entre eux étant évidemment le déplacement de l'ambassade à Jérusalem, qui a été béni, hein, les ambassades américaines sont bénies, voilà, faut savoir ça, par deux prêcheurs dont le passé antisémite est pourtant notoire. Mais comme ce sont des sionistes chrétiens, eh bien, on les a admis et même honorés ce jour-là à Jérusalem.
On dit souvent en France que l'antisionisme cache un antisémitisme, confondant d'ailleurs la critique du gouvernement israélien et l'antisionisme, qui sont deux choses différentes. Et là, en fait, c'est un sionisme antisémite.
En tout cas, pour une partie de ces sionistes chrétiens, mais du point de vue théologique, en revanche, il n'y a absolument aucun doute, vu que quand les prophéties seront accomplies, tous les juifs seront exterminés, les seuls qui survivront, d'après ces sionistes chrétiens, se convertiront au Christ. On peut trouver un philosémitisme plus militant que ces croyances-là.
Plus doux. Deuxième force-faiblesse, c'est un pluralisme de combat.
Alors le pluralisme de combat, il est très impressionnant dans l'histoire du mouvement sioniste et évidemment de la démocratie israélienne, parce qu'il permet à un mouvement qui est profondément divers qui est traversée par des tendances très contradictoires, de maintenir une dynamique collective autour de l'objectif central, mais en même temps on voit que, progressivement, ce pluralisme de combat va représenter une prime aux plus extrémistes. Hein, et ça, c'est lié à la nature profondément démocratique du mode de scrutin en Israël. Hein, voilà, c'est vraiment une personne, un vote, vu que c'est circonscription unique et proportionnelle. Mais ça permet à des partis charnières, qui au début se trouvaient plutôt au centre, mais maintenant se trouvent plutôt à l'extrême droite, de devenir les faiseurs de roi dans la composition du gouvernement, et donc d'imposer, comme minorité agissante, leur priorité beaucoup plus radicale.
Et puis, troisième force, c'est la politique de fait accompli, c'est qu'on ne négocie pas, on impose, et jusqu'ici ça réussit, mais ça devient de plus en plus compliqué quand même.
Oui, alors, pour ce chapitre...
Raymond Aron, dans le livre qu'il avait consacré à Clausewitz, que j'avais lu quand j'étais étudiant, avait dit qu'Israël gagnait les guerres mais perdait les paix.
Voilà, on ne peut pas trouver de citation qui résonne mieux avec l'actualité et avec en fait ma problématique, hein, qu'Israël n'a pas gagné parce qu'Israël n'a pas remporté la paix. Donc effectivement, fait accompli. Alors je cite Haïm Weizmann dans le texte, vu qu'il l'a, c'est en français qu'il l'avait écrit dans son journal. C'est le premier pas qui coûte. Et on a l'impression qu'à chaque fois c'est le premier pas qui coûte dans l'histoire du sionisme et d'Israël. Voilà, au début on a 5-10% de la population juive en Palestine face à 90% d'Arabes, et puis progressivement, ben, on arrive à un tiers, on a le premier plan de partage, on a la fondation de l'État d'Israël, on a l'occupation de 67, et à chaque fois, on repousse, mais sans jamais dire quel est l'objectif final. Alors, toutes ces forces ont en effet des faiblesses au moment de conclure la paix, parce que les sionistes chrétiens ne veulent pas d'une paix des hommes, ils veulent la paix de Dieu, donc ils sont alors là structurellement.
C'est difficile de changer la Bible pour espérer une paix, effectivement.
Et puis pour eux, le droit international est impie, parce que le droit international va à l'encontre de leurs croyances profondes et peut remettre en cause leur salut. Donc ça va quand même très très loin. Hein. Pour eux, les résolutions de l'ONU, c'est péché. Et quand Sharon se retire de Gaza et qu'après il tombe dans le coma, un de leurs prêcheurs les plus en vue dit que c'est la vengeance de Dieu, parce qu'il a osé abandonner un morceau de la terre dite sainte. Et donc ça devient des faiblesses, hein, le pluralisme de combat. On voit qu'aujourd'hui les suprémacistes tiennent complètement le Netanyahou dans leurs mains, parce qu'il a une peur panique que son gouvernement...
C'est la cause de sa survie politique.
C'est sa survie politique et sa survie judiciaire. Hein. Il a quand même trois procédures pour fraude, abus de confiance et corruption qui sont en cours contre lui, et son prédécesseur Ehud Olmert a fait de la prison ferme, et c'est ce qui lui pend littéralement au nez, hein, sans doute pour une peine plus longue. Et puis, voilà, l'absence d'objectif final, et on voit que aujourd'hui, la seule façon, alors évidemment pour les Palestiniens, de se voir reconnaître un minimum de droits, mais aussi pour Israël de pouvoir consacrer la victoire gagée sur un rapport de force aussi écrasant, c'est évidemment la solution à deux États.
Mais qui la soutient désormais en Israël. En fait, les Israéliens ont été choqués par le 7 octobre, et on a l'impression qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui.
Oui, effectivement, il y a un aveuglement qui est entretenu par des médias quand même assez bellicistes. Hein. Et puis, il y a la réalité concrète, c'est que, hormis les journalistes palestiniens de Gaza, qui payent un tribut exorbitant à l'information qu'ils transmettent à l'étranger, hein, il y a des dizaines de morts, personne n'a accès à Gaza. En fait, tout ce qui nous parvient de Gaza est complètement amorti. Et je suis convaincu que le jour où on ouvrira enfin, et j'espère dès demain, les portes de Gaza, non seulement à l'aide humanitaire qui doit être massive pour enrayer la famine en cours, mais aussi à tous les observateurs qui doivent témoigner de ce qui se passe sur place, alors là, tout ce qu'on a dit paraîtra très en deçà de la réalité, y compris pour la société israélienne. Donc je ne fais aucune confiance aujourd'hui aux sondages, aussi bien chez les Israéliens que chez les Palestiniens, parce qu'on est dans une situation de conflit paroxystique, mais il faut une proposition ferme, à prendre ou à laisser, qui viendra de l'extérieur, et qui conduira, parce qu'elle sera à prendre ou à laisser, à une recomposition aussi bien du côté israélien que du côté palestinien.
Merci Jean-Pierre, c'est ton 20e livre à peu près sur cela, t'es proche de la Pléiade, c'est depuis le temps que tu parcours le terrain, que tu fais des livres, y compris sur la Syrie, etc. Donc je renvoie évidemment à la lecture de ton livre, « Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné », c'est l'histoire de ce conflit sur 2 siècles, c'est absolument passionnant et c'est au seuil.